la création tout entière soupire, de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 22, les défis d'un monde à naître, enjeux et responsabilités pour tous. Session sur l'écologie intégrale, enregistrée les 22 et 23 janvier 2021 à Notre-Dame de Buglos dans les Landes, session organisée par l'antenne de théologie des Pays de la Dour, ATPA, diocèse d'Aire-et-Dax et de Bayonne. De Laudato Si à Fratelli Tutti, voici l'intervention de l'abbé Louis-Marie Rino, docteur en théologie et responsable de l'antenne de théologie des Pays de la Dour.
De Laudato Si à Fratelli Tutti, c'est le titre de ma réflexion de ce matin. Alors vous avez certainement pu remarquer, je trouve que les exposés de Catherine puis d'Isabelle ont bien fait toucher du doigt l'immense richesse de notre tradition chrétienne en matière d'écologie, tellement que c'est difficile de tout dire. Grande richesse donc des textes bibliques, grande richesse des textes patristiques, hein. M'a frappé moi dans ces textes bibliques, ces deux récits de la Genèse qui disent tous les deux de manière extrêmement différente, l'unique Dieu et la nature profonde de l'être humain, du couple homme-femme, etc. Le magistère de l'Église a-t-il conservé quelque chose de cette richesse ? Donc ce matin, nous avons progressé, hein, la parole de Dieu écrite, fondement vraiment la parole de Dieu mise par écrit, le commentaire des Pères, dont Isabelle nous a bien montré qu'il tournait toujours autour de la parole de Dieu, et le magistère qui est là pour lire cette unité que forment entre eux la tradition et l'Écriture, pour la répercuter dans le monde d'aujourd'hui de manière autorisé. Et pour vous introduire à cette lecture du magistère, j'ai proposé comme fil conducteur donc de Laudato Si à Fratelli Tutti. Y a-t-il un lien entre les deux ? Alors, l'abbé Cazot m'a un petit peu scié la branche, mais c'est très bien, hein, parce que comme ça fera le fil rouge. Il semblerait qu'il n'y en ait pas, puisque Laudato Si, on dit un certain nombre de commentateurs, est une encyclique verte. Une encyclique verte, même dans de très bons, sous de très bonnes plumes, qui traite donc de l'environnement, d'écologie, et d'autre part, Fratelli Tutti est ce qu'on appelle une encyclique sociale. C'est-à-dire qu'elle relève de ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement de l'Église, mais fondée, vous avez vu quelle richesse on a pour là-dessus, hein, fondée sur la Bible et les Pères, pour dire comment construire une société digne de l'homme aujourd'hui. Ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Alors elle est extrêmement vaste. Et une partie importante de la doctrine sociale de l'Église consiste dans des documents des papes, et notamment dans des encycliques des papes, qu'on appelle des encycliques sociales, disant ce qu'est la société et ce qu'elle doit être. Alors peut-être pas de lien entre Laudato Si et Fratelli Tutti, et en même temps les choses ne sont pas si simples. Il n'y a pas de doute que Fratelli Tutti appartient à la doctrine sociale de l'Église. Le pape le dit lui-même dans ce texte donc, du 3 octobre 2020, hein, c'est récent. Le sous-titre, c'est « Sur la fraternité et l'amitié sociale ». Sur la fraternité et l'amitié sociale. Et il le dit lui-même au numéro 6, en parlant de cette encyclique, il dit « Cette encyclique sociale ». Donc il n'y a pas de doute que Fratelli Tutti relève de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Quant à Laudato Si, est-elle une encyclique verte ? Eh bien, François a toujours refusé explicitement de la qualifier comme telle, à plusieurs reprises, que ce soit dans des rencontres, par exemple, avec ses confrères jésuites, vous savez qu'il aime bien faire ce genre de rencontres, hein, quand il va quelque part. Il leur dit, hein, c'était en 2016, ça, un peu de temps après avoir publié Laudato Si, « Dans l'interprétation de Laudato Si, il faut avoir présent à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une encyclique verte. C'est une encyclique sociale. » Et il a redit à une rencontre intitulée « Esclavage moderne et changement climatique » en 2015, cette fois-ci, donc un petit peu plus tôt. C'est pourquoi, à une question que l'on m'a posée, j'ai répondu « Non, ce n'est pas une encyclique verte. C'est une encyclique sociale. » Donc c'est un leitmotiv chez le pape François, et qu'est-ce que ça veut dire? Il le dit du reste, hein, au numéro 15 de Laudato Si, cette lettre encyclique qui s'ajoute au magistère social de l'Église. Donc c'est très clair pour lui. Alors la question que je vous propose de traiter ensemble ce matin, c'est comment une encyclique qui traite d'écologie peut-elle être une encyclique sociale? Quel est le lien exact entre les deux? Et pour répondre à cette question, je vous propose de nous pencher sur l'écologie d'après Laudato Si. Qu'est-ce que le pape entend par là dans Laudato Si? Pourquoi parfois met-il écologique entre guillemets? Cela nous permettra d'avoir une porte d'entrée dans Fratelli Tutti, mais ce sera vraiment en finale. Mon exposé procédera en trois points. Je commenterai un chapitre de Laudato Si. Dans un deuxième point, je commenterai un deuxième chapitre de Laudato Si. Et dans un troisième point, je verrai comment Laudato Si débouche sur la suite, notamment Fratelli Tutti, mais pas seulement. Alors, je citerai volontiers l'encyclique aussi souvent que je le pourrai, même si vous n'avez pas les textes en main. Ce que vous avez en main, c'est son plan détaillé, avec les sous-titres officiels. Même si je ne commenterai pas tout, bien évidemment. Laudato Si, avant de commencer mon premier point, une présentation du plan, Laudato Si comporte 6 chapitres, hein, vous le voyez sur vos feuilles. Premier chapitre, ce qui se passe dans notre maison, c'est une série de constats, d'un certain nombre de faits, que le pape enregistre. Vous savez qu'il a une série d'experts au Vatican, et notamment pour écrire Laudato Si, il a énormément consulté, il y a eu je ne sais pas combien d'allers-retours entre le pape et les experts pour mettre au point ce texte. Deuxième chapitre, l'évangile de la création. C'est un petit peu l'exposé de Catherine de ce matin. Troisième chapitre, la racine humaine de la crise écologique. On dirait presque un regard plus philosophique où le pape s'inspire beaucoup de Romano Guardini pour diagnostiquer quelle est la source de ce malaise qu'il a bien sûr constaté dans le chapitre 1. Et là, il se livre à un diagnostic extrêmement, j'allais dire, au scalpel, hein, sur les racines de la crise écologique. Quatrième chapitre, vous en percevez tout de suite l'importance, une écologie intégrale. C'est là que le pape livre les traits de sa conception de l'écologie. Que veut dire le mot écologie sous la plume du pape? C'est là, au chapitre quatrième, que le Saint-Père nous l'explique. Ensuite, cinquième chapitre, quelques lignes d'orientation et d'action. Sixième chapitre, éducation et spiritualité écologique. Là, il s'agit plutôt de la mise en place de ce fameux programme. Comment faire pour mettre en place la conversion écologique, hein, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Alors, il est bien sûr hors de question ici d'analyser tout le texte, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un texte très riche, Laudato Si. J'ai entendu tout à l'heure, j'ai parlé avec quelqu'un d'entre vous qui travaille ce texte dans un groupe. Vous avez sûrement remarqué que c'est très difficile de résumer Laudato Si. Hein, il y a énormément de choses. Et il y a énormément de choses dans Laudato Si parce que ce texte se situe au terme, pas seulement au terme aussi, après ça relance, hein, un nouvel élan, mais ça se situe au terme d'une longue, longue réflexion du magistère de l'Église sur l'écologie, qui est extrêmement riche. Un bon spécialiste de la question disait qu'on pourrait facilement trouver une centaine de textes de pape antérieurs à François traitant de l'écologie. Il y en a de tous les genres. Hein. Vous avez des discours, vous avez des catéchèses, des homélies, vous avez des messages, notamment, notez-le bien, des messages à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. 1er janvier de chaque année, c'est la Journée mondiale de la paix. Les papes écrivent toujours un message. Depuis Paul VI, écrivent un message à cette occasion. Eh bien, il y a deux de ces messages qui sont des synthèses, petites synthèses, parce que les messages ne sont pas très longs, hein, des petites synthèses sur qu'est-ce que l'écologie, à propos de la paix. Et il y a aussi des passages d'encycliques. D'ailleurs, depuis Jean-Paul II, toute encyclique sociale comporte un développement sur l'écologie. Depuis 1981. Toute encyclique sociale comporte un développement sur l'écologie. Et même dès sa toute première encyclique, hein, Redemptorum Unis, qui n'était pas une encyclique sociale, il en parle. Donc Laudato Si se nourrit de tout cela. Le premier texte important qu'on peut repérer sur le sujet, remonte à 1971. C'est un discours de Paul VI à une organisation de l'ONU qui s'appelle la FAO, hein, qui traite de l'alimentation, justement, et qui est une très belle synthèse dans laquelle, petite, hein, évidemment, mais dans laquelle on a pu repérer, un bon spécialiste a repéré, l'essentiel, et c'est vrai qu'à la lecture, moi-même, ça m'a frappé, l'essentiel des thèmes traités dans la dot aussi sont déjà dans ce texte. Très beau texte dont je vous recommande la lecture, même si vous ne l'avez pas sur vos feuilles, mais ça peut s'arranger. Si vous regardez la liste des mots dénoncés par le pape François dans le premier chapitre, ce serait facile de faire une liste de références pour montrer quand ils ont déjà été dénoncés auparavant, etc. Conversion écologique dont parle le pape François, moi j'étais persuadé que c'était une trouvaille du pape François, la conversion écologique, eh ben non, c'est de Jean-Paul II, ça fait 30 ans qu'il a inventé cette expression. C'était en 2001, dans une catéchèse, donc place Saint-Pierre, hein, une audience générale. L'apport de Laudato Si, dans ce cadre, c'est que c'est la première fois que c'est une encyclique entièrement dédiée à ce thème. Et là, l'impact est considérable. Parce que le discours de Paul VI à la FAO, qui l'a lu ? Même pas les gars de la FAO, hein, ils l'ont entendu, puis après ils sont allés au restaurant. Donc moi je ne l'avais pas lu avant, je reconnais. Donc, mais là c'est une encyclique, donc ça frappe. Hein, et c'est une synthèse ample, qui recueille avec en plus le style particulier et l'analyse particulière du pape François, qui ajoute, bien sûr, l'une ou l'autre chose de son cru. À mon avis, le chapitre 3 est un de ces chapitres. Moi, je ne connais pas d'autres développements aussi importants sur cette question dans le magistère antérieur. C'est quelque chose de très fort. J'en viens, après cette introduction, à mon premier point, qui sera consacré au premier chapitre. Ce qui se passe dans notre maison. Alors c'est assez classique dans une encyclique sociale de commencer par un état des lieux, hein, c'est pas rare. Ici, cet état des lieux, ou cet état des mots, pourrait-on dire, comporte manifestement trois parties. Il suffit de lire les têtes de chapitre pour repérer les trois principales parties de ce premier chapitre. Je ne m'attarde pas sur la troisième, ce sont les points 6 et 7, la faiblesse des réactions et diversité d'opinions. Ces points 6 et 7 traitent de la manière dont l'humanité réagit aux mots énumérés auparavant. Je laisse ça de côté, ça ne nous concerne pas directement. Restent les deux premières parties qui nous concernent plus immédiatement. La première partie, ce sont les points 1 à 3. Quels sont les titres ? Le mieux, c'est de lire le contenu, hein ? Mais rien que les titres disent bien. Pollution, changement climatique, climat, question de l'eau, perte de la biodiversité. Ce sont des questions qui touchent l'environnement. Ils sont bien connus, normalement, nous y sommes sensibilisés, et le pape les reprend volontiers. Restent les points 4 à 5. Et là, les titres évoquent quelque chose d'un peu différent. Détérioration de la qualité de la vie humaine, oui. Dégradation sociale, c'est-à-dire dégradation du lien social. 5. Inégalité planétaire. C'est le vieux thème qui remonte au moins à Paul VI, des déséquilibres entre les pays riches et les pays pauvres. Ce sont là des problématiques sociales, typiquement sociales. François en fait, dans son état des lieux, de ce qui affecte notre maison commune, comme il le dit, François en fait des thématiques écologiques. Dans ces points 4 et 5, je relève quelques exemples de ce dont traite le pape François. Il traite par exemple de la pollution visuelle dans les villes. En clair, des paysages désagréables à voir, ainsi que sonores. C'est de l'écologie pour lui. On crée des urbanisations écologiques seulement au service de quelques-uns, dit-il, dans certaines villes. Ce problème est écologique. À cela s'ajoutent les dynamiques des moyens de communication sociale et du monde digital qui empêchent de penser en profondeur. Problème écologique pour le pape François. La vraie sagesse, fruit de la réflexion, du dialogue et de la rencontre généreuse entre les personnes, ne s'obtient pas par une pure accumulation de données qui finissent par saturer et obnubiler comme une espèce de pollution mentale, la saturation des informations. C'est un problème écologique pour le pape François. Pollution mentale, dit-il. Et c'est là qu'il dit un mot sur Internet. D'autres exemples sous le second titre. Il dit, en passant, en parlant de résoudre des problèmes écologiques sans penser aux exclus, il dit « Ceci cohabite parfois avec un discours vert. » Il évoque des élites urbaines qui vivent dans un monde qui est le leur et qui, n'ayant pas de contact physique avec les exclus du développement, eh bien, ont beaucoup de mal à les faire entrer dans leurs considérations. Et il dit, notez l'adjectif, c'est la seule fois qu'il apparaît dans l'encyclique, « Ceci cohabite parfois avec un discours vert, entre guillemets. » C'est intéressant, hein ? Pour qualifier un discours écologique qui ne pense pas aux exclus, immédiatement, il pense à un discours, entre guillemets, vert. Je pense que nous avons là la clé de cette manière dont le pape François traite cet adjectif. Pour lui, c'est sa manière imagée de s'exprimer, ça évoque une écologie déconnectée, en réalité, insuffisante. Et il le dit immédiatement, hein. Pourquoi, où est le problème ici ? Parce que, dit-il, et il souligne, une vraie approche écologique se transforme toujours, en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement. Pas d'inclusion de la justice dans les discours sur l'environnement, pas d'écologie, ou une écologie insuffisante, un discours vert, ou une encyclique verte, si l'encyclique avait été de ce jus-là. Et je termine la citation. Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Alors en quoi, c'est la question qui se pose ici, en quoi est-il écologique d'embellir une ville, de maîtriser les réseaux sociaux ou d'avoir souci des pauvres? Qu'est-ce qui fait de ces questions des questions écologiques? Mais le pape nous donne la réponse en une phrase, qui est justement à la jointure entre la première partie de ce premier chapitre et la deuxième partie de ce second chapitre, de ce premier chapitre, pardon. Une phrase qui fait la jointure entre les thématiques, on pourrait dire environnementales, et les thématiques humaines et sociales. Cette phrase, la voici. Si nous tenons compte du fait que l'être humain est aussi une créature de ce monde, qui a le droit de vivre et d'être heureux, et qui, de plus, a une dignité éminente, nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération les effets de la dégradation de l'environnement, du modèle actuel de développement et de la culture du déchet sur la vie des personnes. Dans la nature, il y a l'être humain, qui est une créature parmi les autres créatures, éminente, certes, il le dit, mais qui fait partie de l'ensemble de l'écosystème. L'être humain en fait partie à part entière. Et c'est ce qui fait des problématiques humaines, des problématiques écologiques. Non seulement dans sa dimension de personne singulière, qui a sa valeur, tout comme n'importe quel membre de la création a sa valeur, mais aussi dans sa dimension sociale, de la même manière, ça c'est moi qui commente, hein, c'est pas les paroles du pape, hein, mais de la même manière que n'importe quel être de la nature a son écosystème, eh bien de la même manière, toute personne humaine a son écosystème. Et cet écosystème, eh bien il est d'ordre social. Nous sommes ici un écosystème. Parce que nous ne nourrissons pas seulement de soleil et d'eau, nous nourrissons aussi de relations humaines entre nous. Nous sommes les uns pour les autres écosystème. Et à ce titre, tout problème humain a une dimension écologique au sens large. Vous voyez que dès le premier chapitre, on est en présence d'une certaine conception de l'écologie qui n'accorde pas moins d'importance au respect de l'être humain et de son milieu typiquement humain, de son, ce que j'appelais moi son écosystème, relations sociales, urbanisation. L'écosystème de l'homme, c'est bien souvent une ville. Communication par les médias, voire par Internet, etc. Pas moins d'importance donc au respect de l'être humain qu'à celui du climat ou de la biodiversité. Eh bien, c'est justement ce modèle implicite d'écologie qui est à l'œuvre dans le chapitre 1 que le pape va déployer dans le chapitre 4, sous un titre qui, pour le coup, est de lui. C'est lui qui a inventé cette expression. Ses prédécesseurs parlaient parfois d'écologie humaine, parlaient parfois d'écologie sociale. Et François, pour exposer sa pensée, va utiliser le vocable d'écologie intégrale. L'expression revient à 10 reprises sous sa plume, mais il est clair que sous d'autres vocables, elle est présente partout, notamment sous le fameux, alors ça c'est bien pas François, une formule bien frappée, sous la fameuse formule « tout est lié ». Tout est lié, écologie intégrale. Alors le texte est facile à résumer parce que je me suis amusé à compter les pages. Le 4e chapitre est le plus court de tous. Je vais essayer de vous le résumer brièvement. Ben, regardez tout simplement votre feuille. Une écologie intégrale, ben, qu'est-ce qu'il y a dans une écologie qui est intégrale? Qui dit écologie intégrale dit écologie non tronquée, non réduite, non partielle, non réductrice. Écologie intégrale. Alors, je vous lis l'introduction, c'est au numéro 137. Étant donné que tout est intimement lié et que les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale, je propose à présent que nous nous arrêtions pour penser aux diverses composantes d'une écologie intégrale qui a clairement des dimensions humaines et sociales. Alors, regardez le grand 1. De ce 4e chapitre, l'écologie environnementale, économique et sociale. Une écologie intégrale s'intéresse bien sûr à l'environnement, elle s'intéresse aussi à l'économie, en raison des liens qui existent entre le fonctionnement de l'économie et la protection de l'environnement. Elle s'intéresse aussi à la dimension sociale de l'homme. Voici ce que dit le pape là-dessus, c'est le numéro 142. Toute atteinte, si tout est lié, l'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement et sur la qualité de vie humaine. Plus largement, et là il cite un de ses prédécesseurs, Benoît XVI, toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civique, retenez le terme « amitié civique », toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civique provoque des dommages à l'environnement. Toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civique provoque des dommages à l'environnement. Et oui, soit parce que ça a des conséquences immédiates, lointaines sur l'environnement, mais aussi plus profondément, parce que c'est une partie de l'environnement. C'est l'environnement typique de l'homme, la société. D'où le grand 2, l'écologie culturelle. J'ai dit que c'était typique de l'homme de vivre en société. Mais c'est typique de l'homme aussi de vivre de culture. Donc se soucier de l'environnement typiquement humain, c'est se soucier de la culture. De même qu'un animal étouffe sans air, enfin si c'est pas un poisson du moins, de même l'homme étouffe sans culture qui le nourrisse en profondeur. Je fais des citations du pape. 143. Il y a, avec le patrimoine naturel, la nature qui nous est donnée, un patrimoine historique, artistique et culturel également menacé. Le patrimoine culturel, c'est très large le patrimoine culturel, c'est toutes les cultures humaines dans tout ce qu'elles apportent pour que l'homme se construise. Il fait partie de l'identité commune d'un lieu et il est une base pour construire une ville habitable. Voilà pourquoi l'écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l'humanité au sens le plus large du thème. L'écologie intégrale suppose la préservation des richesses culturelles de l'humanité. Il écrit au numéro 145 « La disparition d'une culture peut être aussi grave ou plus grave que la disparition d'une espèce animale ou végétale. » Dans ce sens, c'est le numéro 146, il est indispensable d'accorder une attention spéciale aux communautés aborigènes et à leurs traditions culturelles. C'est de l'écologie. Grand 3, l'écologie de la vie quotidienne. Avec ce que je vous ai dit, vous comprendrez qu'on trouve dans ce grand 3, l'écologie de la vie quotidienne, des choses aussi diverses, et c'est l'écologie intégrale, que l'aménagement des villes. Vous avez de très beaux développements du pape François sur l'aménagement des villes. Je crois que ce sont les plus développés. Je me souviens de beaux textes de Paul VI qui remontent à 71 là-dessus, mais pas d'une telle richesse, hein, pas d'une telle ampleur. Le problème du logement. Mais oui, une maison, c'est plus qu'un toit. Une maison, c'est ce qui fait vivre l'homme. Problème du logement. Et aussi de la propriété du logement. C'est de l'écologie intégrale. La question des transports. Le problème des rythmes de vie, urbains notamment. Le respect de la loi morale. C'est ce que le pape François appelle l'écologie humaine. Mais il reprend ce terme à Benoît XVI, qui expliquait qu'une écologie humaine suppose l'acceptation de cette loi morale inscrite au plus profond de l'être humain, et notamment du fait d'être un corps, du fait non seulement d'avoir un corps, mais nous sommes des corps. Voici ce qu'il dit. Dans ce sens, Benoît XVI affirmait qu'il existe une écologie de l'homme parce que l'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. Voyez. Dans ce sens, il faut reconnaître que notre propre corps nous met en relation directe avec l'environnement et avec les autres êtres vivants. L'acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune. Tout est lié. Ça c'est moi qui le dis, hein. Excuse-moi. Tandis qu'une logique de domination sur son propre corps devient une logique parfois subtile de domination sur la création. Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en respecter les significations est essentiel pour une vraie écologie humaine. La valorisation de son propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est aussi nécessaire pour pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre avec celui qui est différent, et on retombe sur Genèse. 4. Le principe du bien commun. Le bien commun, c'est ce qui fait que justement une société humaine digne de ce nom se noue. Qu'est-ce qui fait une société humaine? Il y a plein de niveaux de socialisation dans la doctrine sociale de l'Église. Il y a un niveau élémentaire et absolument indispensable qui est celui de la famille. Mais après, vous avez plein de types de socialisation, par exemple l'entreprise, et jusqu'à la grande communauté nationale et internationale. À chaque fois, à chacune de ces communautés, correspond un certain type d'objectif commun poursuivi ensemble, qu'on appelle justement le bien commun. Sans bien commun, pas de lien social, parce que pas d'objectif commun qui nous unit dans un même corps social. Donc pas de bien commun, eh bien pas de société humaine. Et pas de société humaine, eh bien pas de milieu épanouissant pour l'être humain. Ça se résume dans une formule de Vatican II. Qu'est-ce que le bien commun, dit Vatican II, Gaudium et Spes? L'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Enlevez le bien commun, vous enlevez l'écosystème et l'être humain dépérit. Grand 5, la justice entre les générations. Écologie intégrale. Nous ne pouvons pas gérer, poursuivre un bien commun en ignorant les générations passées qui y ont contribué et les générations futures à qui nous devons léguer le patrimoine qui nous permet de vivre en êtres humains. Préserver ce patrimoine pour le léguer, si possible, enrichi aux générations qui suivent, c'est de l'écologie intégrale. Voyez l'ampleur du tableau, hein. Et encore, là, je me suis contenté du 4e chapitre. Mais si vous lisez toute l'encyclique avec cette clé de lecture, vous pouvez grappiller au fur et à mesure, alors c'est pas seulement grappiller parce qu'il y a des gros développements parfois, qui sont parfaitement en lien avec l'écologie intégrale et qui sont impliqués par elle. En particulier, la question de Dieu. La question de Dieu. S'il y a un lien intime entre l'être humain et Dieu, entre l'épanouissement de l'être humain et Dieu, si Dieu est l'écosystème par excellence de l'être humain, alors la question de Dieu entre de plein pied en écologie. Je ne vous cite pas les textes parce que je vois l'heure qui passe, mais il y a deux très beaux textes du pape François là-dessus. Il y a aussi, ça j'ai cité la question de Dieu, mais il y a aussi la question de l'amour. la question de l'amour. L'homme peut-il vivre sans amour? Une vie humaine est-elle possible sans amour? Sans amour authentique? La réponse est dans la question, enfin, ça a été évoqué aussi, et dans l'exposé sur les pères, et dans l'exposé sur la Genèse. Je lis le pape François. Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l'exploitation, de l'égoïsme. À qui se réfère-t-il? À Sainte Thérèse de Lisieux, sainte patronne des écologistes, semble-t-il. Or, l'amour, dit le pape, fait de petits gestes d'attention mutuelle, est aussi civil et politique. C'est par là que je vais terminer. Ce sera mon troisième et dernier point. Dans la foulée de Laudato Si, compris avec cette clé de lecture de l'écologie intégrale, on peut placer deux textes. Le premier texte, c'est l'exhortation post-synodale Querida Amazonia. C'est typiquement un texte qui applique au cas particulier de l'Amazonie les principes de l'écologie intégrale dégagés dans Laudato Si. Regardez les quatre rêves qui structurent ce texte et qui sont faits par le pape François et qui sont, alors les trois premiers sont mis en lien avec l'écologie, hein, pas le quatrième, sauf erreur de ma part. Un rêve social. Une vraie approche écologique se transforme toujours en approche sociale qui doit intégrer la justice, etc. Donc, l'écologie en Amazonie, c'est d'abord un rêve social. Deuxièmement, un rêve culturel. On sait pourquoi maintenant. Troisièmement, un rêve écologique. Vous voyez ? Voilà une application de l'écologie intégrale à la cas particulier de l'Amazonie. Deuxième texte qui se situe dans la foulée de Laudato Si, si on accepte cette lecture, c'est Fratelli Tutti, et je termine par là. Rapidement, il me reste combien de temps? 2 minutes, je crois. Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, c'est quoi? C'est une analyse sur la fraternité, c'est une encyclique sur la fraternité, mais notez bien que le pape a dit simplement encyclique sur la fraternité. Non, encyclique sur la fraternité et l'amour social. C'est ça, hein? L'amitié sociale. Il utilise plusieurs vocales. Sur la fraternité et l'amitié sociale. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de société sans poursuite commune d'un bien commun. Eh bien, cette poursuite commune, dans la philosophie grecque, hein, dans la philosophie d'Aristote, toute amitié est fondée sur un bien qu'on poursuit en commun. Mais amitié, attention, amitié, il faut le prendre au sens fort que ça avait pour les anciens. Hein. Nous, l'amitié, ça s'applique à l'amitié élective, c'est-à-dire j'ai un ami que je me suis choisi. Mais pour les anciens, il y avait amitié à chaque fois qu'il y avait amour authentique partagé. Donc entre deux amis, s'il y a une amitié authentique, on peut parler, s'il y a amour réciproque authentique, amour au sens de j'aime l'autre pour ce qu'il est. Entre deux époux, il y a un type particulier d'amitié. Entre membres d'une équipe de foot, normalement, il y a un type particulier d'amitié, si les rivalités entre les différents postes ne la mettent pas à mal. Entre les membres d'une même entreprise, il devrait y avoir un certain type d'amitié. À chaque fois, structuré par la poursuite d'un même but, en commun, les uns pour les autres. Voilà. C'est quoi l'amitié sociale? On poursuit ensemble un but commun, les uns pour les autres. Et le pape dit, cette charité sociale, il appelle ça parfois charité sociale, ou cette amitié civique, ou cette amitié sociale, eh bien c'est ça qui fait le lien. En particulier dans cette grande société, hein, dans cette grande société qu'est la société civique, hein, la France pour nous, ou la communauté plus largement encore, la communauté des nations à l'échelle du globe. Ce qui fait le lien à chaque fois là-dedans, c'est la charité sociale ou l'amitié sociale qui correspond au type de bien commun qui est poursuivi. Et le pape y voit un enjeu considérable. Mais vous voyez maintenant que Fratelli Tutti, en parlant de cette amitié sociale, se situe dans le prolongement en réalité de Laudato Si, qui voyait un enjeu écologique. Parce que sans charité sociale, nous n'avons pas, pour nous développer, un milieu qui nous soit adéquat. Un mot de la fin. Certains commentateur estime que dans la longue liste des encycliques sociales, il y a trois étapes. La première étape était marquée par la question ouvrière, la fin du XIXe siècle. Comment faire pour arracher à l'inégalité la classe ouvrière? C'est la première encyclique sociale, 1891, Rerum Novarum. Une deuxième génération d'encycliques sociales a commencé en 1967 avec Populorum Progressio de Paul VI, qui lui parlait du développement. C'était plus une question d'une classe défavorisée, c'est la question de pays défavorisés, de pays entiers défavorisés par rapport à d'autres. Le déséquilibre n'était pas entre classes sociales, le déséquilibre était entre pays, le nord et le sud, hein, grosso modo. Avec Laudato aussi, semble-t-il, on franchit une troisième étape. L'écologie n'est plus un chapitre, comme c'était le cas dans les encycliques précédentes. L'écologie n'est plus un chapitre de la doctrine sociale de l'Église. Il semble que ce soit désormais la doctrine sociale de l'Église qui devient un chapitre de l'écologie. Affaire à suivre, je vous remercie.
De Laudato si à Fratelli Tutti, vous venez de suivre l'intervention de l'abbé Louis-Marie Rinaud, docteur en théologie et responsable de l'antenne de théologie des Pays de l'Adour. La création tout entière soupire, de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 22, les défis d'un monde à naître, enjeux et responsabilités pour tous. Session sur l'écologie intégrale, enregistrée les 22 et 23 janvier 2021 à Notre-Dame de Buglos dans les Landes, session organisée par l'antenne de théologie des Pays de l'Adour, ATPA, diocèse d'Eredax et de Bayonne. Vous pouvez retrouver toutes les interventions sur le site internet de l'antenne de théologie des Pays de l'Adour, atpa-theologie.com.